Chapitre 67. Quand Richard reprit conscience de l'existence du monde autour de lui, il eut l'impression que c'était un vaste océan de souffrance tétanisante. Il se souvenait très bien de cet instant atroce où Vika avait abattu son agiel à la base de son crâne, un endroit très spécial sur la nuque que toutes les morts de site connaissaient. Mais s'il était revenu à lui, c'était parce que la femme en cuir rouge avait recommencé. À genoux, s'appuyant sur les mains, Richard tremblait comme une feuille et l'écho de ses cris se répercutait encore dans la grande caverne. Les larmes de douleur qui coulaient le long de ses joues venaient s'écraser sur le sol devant lui. Quand le silence fut enfin revenu, pas pour longtemps, les Shuntuk poussèrent un hurlement collectif qui perça les tympans du sourcier. Un vieux sentiment d'impuissance atrocement familier se réveilla en Richard. Après avoir fait une très longue route en croyant s'éloigner des pires moments de sa vie, il se retrouvait à son point de départ, comme s'il avait simplement tourné en rond. Malgré la multitude qui l'entourait, il se sentait seul avec sa souffrance et son désespoir. Comme en des temps qu'il croyait révolus, il se surprit à implorer la mort de bien vouloir de lui afin de l'arracher à son calvaire. Comme il l'avait déjà fait jadis, il combattit le désespoir, refusa de céder à la résignation et chassa de son esprit la seule idée d'en appeler à la mort. Pourtant, il lui sembla que ce désir de s'anéantir avait toujours été tapis en lui, invisible, mais guettant la première occasion de se manifester. La mort pouvait le délivrer de ses tourments personnels. Mais s'il voulait aider les autres, c'était à la vie qu'il devait se fier. Cela dit, en mourant, il priverait au moins les demi-humains de ce qu'il convoitait. Le sang d'un homme lié à la vie et à la mort est par là même en mesure de réveiller un très ancien défunt. Richard s'avisa qu'il cherchait un prétexte pour baisser les bras et se livrer à la mort. Pourtant, s'il périssait, sa fin interdirait le retour du roi des Shuntuk et protégerait donc bel et bien ceux qu'il aimait. Mais il y avait l'avertissement de Nadja. Lui seul pouvait mettre un terme au plan délirant de l'empereur Sulakhan, mais pour ça, il devait en finir avec les prophéties. S'il mourait, il n'aurait aucune chance d'accomplir sa mission. Alors au bout du compte, il n'aurait sauvé personne. Il était l'élu, le seul capable d'enrayer l'invasion de demi-humains et de cadavres ranimés, le seul qui pouvait empêcher le voile de se déchirer totalement, livrant le monde des vivants à la fureur aveugle du royaume des morts. En même temps, il était aussi le seul à pouvoir rendre aux dévoreurs d'âmes le roi qui les lancerait sur le monde comme une horde de bêtes fauves. Au sens littéral du terme, s'aperçut Richard, il était en même temps la vie et la mort, autant sauveur que destructeur. Exactement le message que lui avait laissé Magda Cyrus. Richard regarda ses larmes s'écraser sur le sol souillé du sang de tant de gens. Le sang de Zed, de Nietzsche, de Kara, des soldats survivants, des amis venus l'aider, prêts à sacrifier leur vie pour ça s'il le fallait. Par le passé, bien des gens étaient morts pour lui. Pour tous ces héros et bien d'autres encore, il ne pouvait pas se permettre de céder. Pour eux, sinon pour lui-même, il devait être fort et supporter tout ce que ses ennemis envisageaient de lui faire. Une fois cette épreuve passée, il lui resterait encore une chance de trouver une solution et d'arracher le monde au cauchemar qui l'attendait. L'avenir des hommes et des femmes dignes de ce nom dépendait de lui. Les soldats avaient été l'acier qui affronte l'acier, même en l'absence de son don, il lui revenait d'être la magie qui affronte la magie. Alors que ses oreilles sifflaient toujours, une conséquence de la douleur, il commença à entendre les Shuntuk psalmodier dans une langue qu'il ne reconnut pas. Très vite, le bourdonnement devint presque assez fort pour faire trembler les parois de la roche. Tandis que les dévoreurs d'âmes chantaient, Anis Ark s'affairait sur le cadavre de leur roi. Utilisant le même langage que les sauvages, il invoquait des forces dont Richard n'imaginait même pas la nature. D'autres Shuntuk vinrent verser un liquide huileux dans les coupes. De temps en temps, Anis Ark trempait un index dans l'un ou l'autre de ses récipients, puis il dessinait d'énigmatiques symboles sur le cadavre momifié. Sous le regard de Richard, encore sonné, Anis Ark entreprit de tracer sur le front du cadavre des symboles qui émirent aussitôt une sinistre lueur orange. Puis il leva les bras, incitant les demi-humains à entonner une nouvelle litanie. Dès qu'ils lui eurent obéi, il se pencha de nouveau sur la dépouille. Richard vit alors un spectacle à la fois hallucinant et terrifiant. D'un seul coup, les tatouages d'Anis Hark se mirent à briller. Alors qu'il parlait dans l'antique langue, toutes les lignes qui composaient des symboles sur son corps émirent la même lueur orange que l'emblème tracé sur le front du mort, mais elles ne l'émirent pas en même temps, chacune redevenant terne avant que la suivante prenne le relais. Anis Hark se tourna vers les Shuntuk, leva une main et cria une phrase que Richard ne comprit pas. En écho, les dévoreurs d'âmes braillèrent des mots qui devaient faire partie du rituel, tandis qu'Anis Hark continuait à dessiner sur le mort des symboles qui brillaient en harmonie avec ceux qu'il arborait, car les séquences lumineuses étaient bel et bien synchronisées. Les Shuntuk entonnèrent une autre litanie, très répétitive, comme des roulements de tambour, et à chaque nouveau battement, un autre emblème s'illuminait. La litanie gagna peu à peu en intensité, entraînant jusqu'à Richard dans son rythme hypnotique. Les symboles visibles sur Anis Hark s'illuminaient les uns après les autres, répondant au chant des dévoreurs d'âmes. Une forme de dialogue en quelque sorte, dont Richard était témoin pour la première fois de sa vie. Au-delà de cette conversation, il s'agissait du sortilège le plus complexe et le plus collectif dont il ait jamais entendu parler. Anis Hark se tourna vers la mort de Sith, un rictus sur les lèvres.
« Debout !»
ordonna Vika à Richard. Cette voix sembla irréelle au sourcier, comme si elle ne sortait pas de la gorge de Vika mais remontait au contraire des profondeurs les plus répugnantes de son passé. Il ne bougea pas. C'était volontaire, mais même sans ça, il n'était pas sûr qu'il aurait pu se lever. Vika s'agenouilla et lui rugit à l'oreille.
« Debout, sale chiot !»
Richard tenta d'obéir et sentit qu'une main se glissait sous son bras pour l'aider. S'appuyant sur la mort de Sith, il avança jusqu'à l'autel. Fidèle à son personnage, Anis Hark l'accueillit en se retournant dans un grand bruissement de tunique, comme s'il se prenait pour un esprit émergent du royaume des morts, puis ses yeux rouges se rivèrent sur Richard. Vika posa son agiel sur la nuque du sourcier, le paralysant. La vision brouillée, Richard ouvrit la bouche pour crier, mais il ne parvint pas à produire un son. Vika poussa en avant le bras de Richard qu'elle tenait, et Anis Hark le saisit par le poignet, forçant sa main à surplomber le cadavre momifié. Impuissant, le sourcier aurait juré qu'il regardait la scène, pas qu'il en était un des acteurs. Anis Hark sortit de sous sa tunique un couteau de pierre à la lame aussi noire que les profondeurs délétères du royaume des morts. Puis, il entailla l'avant-bras de Richard. Toujours paralysé par la gielle de Vika, le sourcier ne sentit même pas la douleur, physique en tout cas, car à l'intérieur de son être, il eut le sentiment que le couteau d'Anis Hark venait de frapper à l'endroit où se tapissait la mort, la faisant saigner en même temps que son corps et son âme. Le sang du messager de la mort aspergea la dépouille, puis s'écoula en une multitude de ruisselets tout au long du torse momifié. Anis Hark tira le bras de Richard pour le placer au-dessus de la bouche du roi mort. Quand il estima avoir assez arrosé de sang la dépouille, le maître de Vika repoussa le messager de la mort. Le corps du roi ruisselait de fluide vital. Dans un brouillard, Richard se demanda comment il pouvait être encore vivant après une telle hémorragie. Vika tira le sourcier en arrière. Trop faible pour résister, il n'essaya même pas car ça n'aurait servi à rien. Les fous qui l'entouraient iraient jusqu'au bout de leur démence, ça ne faisait plus de doute et il n'était pas en état de s'opposer à eux. Cédant à la fatigue, Richard se laissa tomber à genoux. Concentré sur le cadavre comme les Shuntuk, Anis Hark ne sembla pas s'en apercevoir. Vika se pencha et souffla à l'oreille de Richard.
« Mets l'autre main sur la plaie !»
Richard entendit chaque mot, sans en comprendre vraiment le sens. Même si Vika avait écarté son agiel, la douleur continuait à lui embrouiller l'esprit. La mort de Sith prit la main gauche du sourcier et la plaça sur la plaie béante de son avant-bras droit.
« Appuie !»
souffla-t-elle.
Comprime les lèvres de la blessure.
Merci, murmura Richard. Il n'aurait su dire de quoi il remerciait la mort de Sid. Ça lui semblait la bonne chose à faire. Voilà tout. Sur l'autel, tout le corps du roi mort brillait, et un spectre émergeait de la coquille vide qu'était devenue sa dépouille.